Chapitre 53. Vallée du Sirdaria, Kazakhstan. Ossian gravit les quelques mètres de dénivelé du lit mineur du Sirdaria. Le maigre fleuve serpentait dans un désert de cailloux et de poussière, creusant inlassablement son chemin entre les collines dénudées que le vent et la gravité s'acharnaient à combler. La canne d'Ossian s'enfonçait dans le sable meuble. Plus personne d'autre que lui n'avait dû fouler les alluvions de cette rivière polluée depuis des décennies, pas davantage que de remonter son cours. Sans doute depuis que la zone, toute la zone, tout le Kazakhstan, était à bout. Ossian s'arrêta. Il avait marché une bonne partie de la nuit et de la matinée, moins de 40 kilomètres au final. Un terrain plat sur la plus grande partie du trajet, sitôt entré dans la plaine alluviale, sitôt sorti des montagnes Karataou. Presque une promenade de santé, même pour un vieil homme fatigué refusant d'utiliser le TPC qu'il portait au poignet. Pas question de se faire repérer. Pas maintenant, pensait Ossian. L'Organisation mondiale des déplacements avait commis une erreur grossière, une erreur historique, une erreur qui allait leur coûter très cher. Hors de question de tout gâcher, il préférait marcher. Son TPC lui servirait quand la zone ne serait plus tabou. Ça n'allait plus tarder. Il continua d'escalader avec prudence le remblai de terre pour surplomber le site. Depuis qu'il avait été assigné au Kazakhstan, 11 ans plus tôt, c'est la 20e fois qu'il s'y rendait. Il y avait passé des semaines entières. Les assignés de l'Assemblée des peuples libres pensaient qu'il partait seul, méditer, rédiger un nouveau livre, qu'il reviendrait, et effectivement, il revenait, toujours, après plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tous le voyaient comme un idéologue, un philosophe, un agitateur d'idées, au mieux un député raté. Aucun ne se souvenait de sa véritable formation, comme celle de Galiléo Nemrod, comme celle de la plupart des pionniers de la téléportation humaine, ingénieurs, des scientifiques avant de devenir des politiques. Ossian s'arrêta. À chaque fois qu'il revenait, une impression de vertige le saisissait quand son regard embrassait la totalité du site. Comment les hommes avaient-ils pu l'oublier ? Comment l'Organisation mondiale des déplacements avait-elle pu être assez stupide pour assigner les principaux prisonniers politiques dans une vaste steppe où jadis les hommes avaient construit le plus puissant cosmodrome de la planète? Ossian observa la steppe brûlée par le soleil, une plaine si étendue que l'œil n'en percevait aucune limite, à l'exception d'une ligne de brume floutant l'horizon. Et planté au milieu de ce décor lunaire, une ville fantôme. Des cubes de béton éparpillés, des cheminées noircies d'une fumée qu'elle n'avait plus crachée depuis des années, des grues de fer gigantesques et squelettiques abandonnées sur place, telles des carcasses d'animaux préhistoriques. Baïkonour. Un champ de ruines quand Ossian l'avait découvert en 2086. Qui aurait pu croire que de ce site désaffecté à moitié enseveli sous le sable avaient été lancés les premiers satellites artificiels de l'histoire de l'humanité dans les années 1950, que d'ici avait décollé le premier homme dans l'espace, ou qu'avaient été testés à partir de milliers de tirs les missiles balistiques intercontinentaux les plus dangereux jamais construits sur Terre? Ossian en avait fait l'inventaire. Il restait sur le site encore 1195 missiles en état d'activité, et 1230 lanceurs. Un seul suffirait. Ossian se remit en route et longea un imbroglio de tuyaux qui sortait de terre, traversait la route, puis replongeait dans les entrailles du désert. Anciens oléoducs, gazoducs ou simples conduites d'eau. Les restes de moteurs d'une fusée Soyouz U2 rouillaient dans un cratère visqueux, formé au fil des années par la percolation de gouttes d'huile aux jointures d'un pipeline. Ossian ne devait pas se laisser envahir par cette nostalgie contemplative. Le reste de son plan était strictement minuté. La fameuse nouvelle Babel de Nemrod s'ouvrirait dans 70 minutes. Il avait tout programmé pendant de longs mois, dans l'attente de ce moment précis. Il repensa à ce que lui avait appris Lilio de Castro, ce journaliste prêt à tout pour avoir sa place au premier rang du grand théâtre de l'histoire. L'humanité réunie sur l'île de Tristan d'Acunha entre 11h45 et midi en hommage à la première téléportation quantique. Quelques centimètres, un grain de sable. Jamais depuis sa préhistoire l'humanité n'avait été aussi vulnérable. une seule terre, un seul peuple, une seule langue. Le mantra de Nemrod était implacable, sourit Ossian. Personne ne pouvait lutter contre une telle utopie. Au siècle dernier, les sites de Baïkonour, Kourou, Cap Canaveral, Jiuquan, sans oublier les bases secrètes iraniennes et coréennes, étaient en compétition les uns contre les autres pour se doter des fusées les plus performantes, des lanceurs de satellites les plus fiables et d'armes nucléaires capables de faire exploser 10 fois la Terre. Nemrod avait balayé cette concurrence suicidaire en rassemblant toutes les énergies sur un seul site, l'îlot Rolas, dans l'archipel de Sao Tomé et Principe, au large du Gabon, en plein sur la ligne d'équateur. Le cosmodrome international abritait les plus grands cerveaux mondiaux de l'astrophysique, unis en un seul objectif, construire des antennes relais sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, sur Mercure, et à moyen terme, être capable d'organiser la téléportation humaine interplanétaire. Rien du point de vue de la physique quantique ne s'y opposait. C'était une simple question d'énergie, de temps, de volonté et de moyens à y consacrer. Ossian rejoignit le fleuve. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue rouge du lit mineur du Sir Daria, dont les rives argileuses étaient encore gorgées de l'eau tombée en trombe lors de la violente averse de la veille. Sa canne laissait un fragile sillon, bien droit, que la terre humide effaçait quelques secondes après son passage. Bien entendu, pensait Ossian, Nemrod avait gagné, et il ne pouvait pas le supporter. Les terriens, en se soumettant à la constitution de 2058, avaient accepté de façon volontaire de n'être plus que les pions d'une société totalitaire, une termitière absurde, 10 milliards d'insectes agitant leurs ailes nouvelles partout sur la Terre, un bocal qui ne leur suffisait déjà plus, bientôt l'essaim de fourmis coloniserait toute la galaxie. Il fallait revenir en arrière, de 100 ans au moins, prendre un nouveau chemin, avec ceux qui survivraient. Ossian ouvrit la porte blindée de la rampe de lancement Proton, celle qu'il avait patiemment réactivée au cours des dernières années. Le missile intercontinental, un Sarmat RS-29, était conçu pour traverser la Terre en quelques minutes. Il n'était pas d'une puissance phénoménale, à peine capable de faire sauter un caillou de 10 km². Mais si, par le plus grand des hasards, la quasi-totalité des hommes, des femmes et des enfants habitant sur Terre se trouvait précisément sur ce caillou. Ossian posa sa canne contre la porte de fer, s'assit dans le fauteuil poussiéreux face aux vieux écrans de contrôle, et appuya sur une série de boutons. Des lumières rouges et vertes clignotèrent. Tout était en parfait état de fonctionnement. Personne ne savait qui il était ici. Personne n'était au courant de son projet. Personne ne l'arrêterait. Il l'avait baptisé Nouvelle Sodome. Nemrod aurait apprécié. Ossian commença méthodiquement à activer un à un les lanceurs balistiques, tout en murmurant entre ses dents dans le silence du cosmodrome abandonné. « Joyeux anniversaire, Galiléo !»